La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
La semaine précédente, nous avons considéré la première partie du deuxième commandement, c'est-à-dire la prohibition. Et durant cette présentation, nous avons découvert les différentes formes que peut revêtir l'idolâtrie. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie de ce commandement, c'est-à-dire la raison de cette prohibition. Rendons-nous pour cela en Exode chapitre 20 et lisons les versets concernés par cette raison de la prohibition. Exode chapitre 20 et considérons le verset 6, les versets 6 et 7. Exode chapitre 20, versets 6 et 7. Versets 5 et 6. Exode chapitre 20, versets 5 et 6. Tu ne te prosterneras point devant elle, donc elle, ce sont qui? Les images taillées et les ressemblances, ok? Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. Ok? Donc ça c'est la première partie de la raison. Ok? La deuxième partie de la raison, ou du moins la continuité, mais on va le couper en deux pour notre compréhension. Le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sous les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu ne souhaite pas que nous nous prosternions et servions des idoles, des images faites par la main de l'homme, lesquelles, nous l'avons vu la semaine dernière, peuvent être de fausses doctrines. Et il ne le souhaite pas car il est un Dieu jaloux. Telle est la première raison, ou du moins la première partie de la raison sur laquelle nous allons diriger notre attention aujourd'hui. La Bible nous présente l'idolâtrie comme étant de l'adultère spirituel. En effet, en Ézéchiel, chapitre 23, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi à présent, à vous rendre avec moi à présent en Ézéchiel, chapitre 23. Et là, nous allons considérer le verset 37. Ézéchiel, chapitre 23, et considérons-y le verset 37. Où il nous est dit, elles ont commis adultère et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles et même les enfants qu'elles ont enfantés. Elles les ont fait passer par le feu pour être dévorées. Et c'est la raison pour laquelle le fait que l'idolâtrie soit un adultère spirituel, c'est la raison pour laquelle l'aversion de Dieu pour la pratique de l'idolâtrie est qualifiée de jalousie. En fait, mes amis, la jalousie est une partie intégrante du caractère de Dieu. En effet, rendons-nous en Exode, chapitre 34 et au verset 4. livre d'Exode, qui vient juste après Genèse, Genèse-Exode, au chapitre 34 et au verset 14. Genèse 34, verset 14. Et lisons ce qu'il est dit ici. Genèse 34, verset 14. Et nous lirons juste le verset 14. Genèse 34, verset 14, il est dit, « Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car je suis, parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux, c'est un Dieu jaloux. » En réalité, ici, le mot « Dieu » qui est devant « jaloux » la première fois dans ce verset a été rajouté par le traducteur. Donc, s'il me faut vous lire ce verset tel qu'il a été originalement écrit, eh bien, cela donne la chose suivante. Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel se nomme le jaloux. C'est un Dieu jaloux. Voyez-vous? Il se nomme le jaloux. Donc, la jalousie est bel et bien une partie intégrante de son caractère. Et voyez-vous ici, le terme hébreu qui est traduit par jaloux a pour racine le mot hébreu kiné. D'accord? Et ce mot kiné dénote une émotion intense. D'accord? Et il est employé ailleurs dans l'Ancien Testament pour décrire la rage. En effet, en Zacharie, chapitre 8, verset 2, je vous invite à vous rendre avec moi en Zacharie, chapitre 8 et au verset 2. Et là, nous lisons que « Ainsi a dit l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie. Je suis jaloux pour elle avec une grande indignation. » Le terme indignation ici, eh bien, il signifie en fait colère, rage, d'accord? Lorsque vous considérez le terme original hébreu qui est employé. Et ailleurs, dans l'Ancien Testament, cette racine kiné est employée pour décrire le zèle extrême. En effet, en psaume, dans le psaume 119 et au verset 139, je vous invite à vous y rendre avec moi. Psaume 119 et au verset, le verset 139. Psaume 119, verset 139. Et là, nous lisons que mon zèle, et ici c'est le terme zèle qui est employé ici, a pour racine kiné. La même racine qui, en Exode 34, verset 14, est employée pour donner le terme jaloux. Eh bien, c'est la même racine qui est à l'origine de ce terme-là, mon zèle. Mon zèle, donc kiné, la racine derrière, mon zèle m'a miné parce que mes ennemis ont oublié tes paroles. Mais au fait, qui est ce Dieu jaloux? Ou devrais-je dire, qui est l'époux jaloux dont nous parle ce commandement? Ou qui prononce, qui se présente dans ce commandement comme étant cet époux jaloux? Remarquez qu'il est dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. » Cette déclaration fait appel au préambule situé au verset 2 d'Exode chapitre 20. Et durant la première partie de l'étude du premier commandement, nous avons vu que Christ est la face devant laquelle Dieu le Père ne souhaite pas que nous ayons un autre Dieu. Et durant la première partie de l'étude du deuxième commandement, nous avons vu que Christ est la seule image que Dieu le Père nous demande de contempler afin d'obtenir une révélation parfaite de son caractère. Donc, il s'agit bel et bien de Christ. Et voyez-vous, la prophétie avait annoncé la jalousie du Fils pour l'adoration du Père dans le psaume 69 et au verset 9. Retournons ensemble, s'il vous plaît, dans le livre des psaumes. Et cette fois-ci, considérons le psaume 69 et lisons-y le verset 9. Qui, vous allez le voir, est assez similaire à ce que nous avons lu dans le psaume 119 et au verset 139. Mais il s'agit là de quelque chose de similaire, mais de légèrement différent. Parce qu'ici, il s'agit de la prophétie de la jalousie du Fils pour l'adoration du Père. Le psaume 69 et au verset 9. Et là encore, nous allons retrouver la racine kiné. Psaume 69 et au verset 9. Et en fait, ici, dans la version Osterwald, pour ceux qui ont une version Osterwald, c'est le verset 10, d'accord? Alors, excusez-moi, c'est dans la version que je lis, c'est le verset 10. Il est dit, « Car le zèle... » Donc ici, c'est kiné, d'accord? La racine, c'est kiné, tout comme Exode 34. Et dans Exode 20, la racine, c'est kiné, pour jaloux. C'est la même racine. Je reprends. « Car le zèle de ta maison m'a dévoré, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. » Cette jalousie du Fils a été révélée dans le ministère de Jésus-Christ, dans l'Évangile de Jean, chapitre 2 et au verset 17. Je vous invite, mes amis, à vous rendre avec moi maintenant dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, et considérons tout du moins la mention qui est faite de ce verset, je devrais dire. « Alors ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison m'a dévoré. » OK? Donc, les disciples eux-mêmes se sont souvenus de ça lorsqu'ils ont vu. Mais, lorsqu'ils ont vu quoi? Pourquoi la jalousie du doux Jésus a-t-elle été provoquée? Lisons à partir du verset 13, mes amis. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis et des pigeons avec les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, « Ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. » Et le verset 17, « Alors, les disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison m'a dévoré. » Christ purifia la maison qui était la demeure de Dieu, car cette dernière avait été transformée en une maison de marché, d'après ce que il déclara. Mais où était le mal? Il fallait bien des agneaux, parce que c'était la Pâque, il fallait bien des agneaux pour sacrifier. Où était le mal à cela? Je vous invite à remarquer qu'il y avait des changeurs, des gens qui prenaient, lorsque vous allez à l'aéroport, vous avez des points de change, ok? Où vous changez votre monnaie. Moi, quand je suis allé aux États-Unis il y a quelques mois de cela, ben, j'avais des euros, ou du moins des dollars, que j'ai échangés pour avoir des euros. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'il y avait en fait dans le temple. Et Jésus, il a renversé l'étape d'échangeur. Il a fait des choses, mais il a renversé l'étape d'échangeur. D'accord? Parce qu'il y avait une monnaie spéciale dans le sanctuaire. OK? Donc, retenez cela. Et maintenant, considérons la seconde purification du temple en Matthieu, chapitre 21 et au verset 12. Matthieu, chapitre 21 et au verset 12. Et lisons le verset 12 et 13. Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 21. Et lisons les versets 12 et 13. Et Jésus entra dans le temple de Dieu. Et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs. Et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de brigands. Lors de la seconde purification du temple, mes amis, Jésus précisa que cette maison était censée être une maison de prière. Or, d'après Jésus, cette dernière avait été transformée non pas en une maison de marché, comme il le déclara lors de la première fois, mais il alla plus loin en disant qu'elle avait été transformée en une maison de brigands, c'est-à-dire en une maison de voleurs. Les marchands du temple avaient reçu l'approbation des prêtres pour s'installer dans le parvis du temple. Ainsi, en plus de recevoir dîmes et offrandes, les prêtres percevaient une part des ventes du marché et s'enrichissaient malhonnêtement sous le dos du peuple. Et à quel moment aussi cela se faisait? Lorsqu'il y avait le change, mes amis. Lorsqu'il y avait le change, il y avait quelque chose de malhonnête qui était fait là-dedans. Et Jésus, il a vu tout cela, en fait. Il a perçu tous ces détails-là. Et il a vu que c'était une maison de marché, une maison de voleurs. Sans égard à la révérence qui était due à Dieu, en ce lieu, les prêtres avaient érigé le gain matériel en idole et avaient ainsi provoqué la jalousie du Fils pour le culte du Père. Mes amis, si nous ne voulons pas provoquer la jalousie du Fils, alors ne faisons pas du lieu que nous consacrons à Dieu telle une maison de prière, un lieu d'action ou de parole profane. Il nous reste encore des choses à dire au sujet de la maison de Dieu. Mais laissons cela pour plus tard dans cette présentation. L'apôtre Paul identifia clairement, pour sa part, Jésus-Christ comme étant l'époux de la jalousie de Dieu. En effet, dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 11, je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en 2 Corinthiens, chapitre 11. Et là, nous lirons le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11. Et lisons là le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » rappelez-vous quand 1 Corinthiens, chapitre 15, et au verset 27 et 28, mis à part sa personne, Dieu le Père a placé toutes choses sous le commandement de son Fils, afin que ce dernier puisse en retour lui soumettre toutes choses. Ainsi, tout comme son Père, eh bien, le Fils est également jaloux. Et c'est cette jalousie que Paul éprouvait pour les Corinthiens. Mais pourquoi cette jalousie animait-elle Paul envers les Corinthiens? C'est parce qu'il craignait qu'ils ne perdent leur virginité spirituelle, c'est-à-dire leur pureté spirituelle. En effet, reprenons le verset 2 et lisons jusqu'au verset 3. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. » Et comment cela? Car s'il venait quelqu'un qu'il vous prêcha un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. L'apôtre craignait que les croyants de Corinthe acceptent un autre Jésus que celui qu'il leur avait prêché, un autre esprit que celui qu'ils avaient reçu, et un autre évangile que celui qu'ils avaient embrassé. Le Jésus qu'il leur avait prêché était le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ayant été fait chair. L'esprit qu'ils avaient reçu était l'esprit du Seigneur Jésus. Et l'évangile qu'ils avaient embrassé, mes amis, eh bien, était l'évangile, comme nous l'avons vu dans l'étude de ce matin. Cet évangile révélait la justice de Dieu. Christ en étant l'élément principal, Christ étant cette justice. Mes amis, nous provoquons la colère, nous provoquons la jalousie de Dieu lorsque nous nous prosternons et servons la doctrine de la Trinité qui a été faite par la main de l'homme pour le christianisme en 325 après Jésus-Christ durant le concile de Nicée. Car tout comme les autres, cette doctrine nous apporte un autre Jésus, un autre esprit. Et de ce fait, un autre évangile, mes amis. Est-ce que vos pasteurs sont comme l'apôtre Paul? Est-ce que vos pasteurs ont la même créance que l'apôtre Paul? Il doit normalement en être le cas, mes amis. Et si tel est le cas, ils sont censés, eh bien, être animés de la même jalousie que l'apôtre Paul. Tous les bergers devraient être animés de la jalousie qui animait l'apôtre Paul pour l'Église, mes amis. Tous. Mais voyez-vous, lorsque vous enseignez des doctrines comme la Trinité, vous ne pouvez pas être animé de la jalousie de l'apôtre Paul, puisque vous êtes vous-même, un ministre qui enseigne aux autres. Vous êtes vous-même un ministre qui, en enseignant aux autres, je veux dire, provoque la jalousie de Dieu. Ces doctrines, mes amis, doctrines telles que la Trinité, nous apportent un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Or, d'après l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas être présentés à Christ telle une vierge chaste si nous acceptons de faux enseignements sur Jésus, sur l'Esprit de Dieu et sur l'Évangile. Voulons-nous provoquer la jalousie de Dieu? Est-ce que c'est ce que nous cherchons à faire en continuant à adorer un faux Dieu? Est-ce que c'est ce que nous cherchons à faire en encourageant les ministres qui promeuvent l'adoration d'un faux Dieu, lesquels n'ont aucune jalousie de Dieu qui les anime pour l'Église? Est-ce que c'est cela, mes amis? Ce n'est en tout cas pas le cas. Ce n'est en tout cas pas ce que feront les 144 000 qui auront acquis leur virginité spirituelle au prix de la singularisation, c'est-à-dire au prix de la séparation d'avec l'apostasie. En effet, retournons en Exode, chapitre 34. Mais cette fois-ci, commençons la lecture au verset 12, jusqu'au verset 14. Exode, chapitre 34, verset 12 jusqu'au verset 14. Et faites bien attention. Faites bien attention à ce qui va suivre. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays dans lequel tu vas entrer, de peur qu'ils ne soient en piège au milieu de toi. Mais vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous couperez leurs emblèmes d'Achira. Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel se nomme le jaloux. C'est un Dieu jaloux. Mes amis, nous devons veiller à adorer Dieu en stricte conformité avec sa parole, sa doctrine. Ce qui implique le fait de se singulariser, de se séparer, si cela est nécessaire, et de détruire les idoles en prêchant la connaissance de Dieu. Or, le meilleur moyen d'échouer à ce niveau est de faire alliance avec les églises qui apportent au monde un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile que ceux dont la Bible nous parle. Mes amis, l'œcuménisme, sous toutes ses formes, est une pratique qui provoque la jalousie de Dieu. Alors de grâce, n'écoutez pas les soi-disant chrétiens qui vous accusent d'avoir l'esprit étroit quand vous vous démarquez pour rester fidèle à votre céleste époux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car si nous échouons, si nous persistons à refuser d'acquérir la virginité spirituelle qui est en Jésus-Christ, Alors, le divin Fils de Dieu, qui est jaloux comme son Père, nous dira avec tristesse ce qu'il déclara aux Juifs endurcis en Matthieu chapitre 23. Rendons-nous dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 23. Matthieu, chapitre 23, et lisons les versets 37 et 38. Matthieu 23, versets 37 et 38. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre demeure va devenir déserte. La demeure dont Jésus parle ici, mes amis, c'est le temple. Le temple des Juifs. Et le temple qui avait été jusque-là la maison de son père, était alors devenu leur maison, leur demeure. La présence de Dieu s'en était allée. C'est ce qui arriva aux églises de Rome, qui apostasièrent au point de donner naissance à la papauté, à l'Église romaine, à Babylone la Grande. C'est ce qui arriva également aux églises protestantes qui rejetèrent le véritable esprit de la réforme au début du 19e siècle et devinrent ainsi les filles de Babylone. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'Église qui affirme encore préparer un peuple pour la seconde venue de Jésus, mais qui en fait excite la jalousie de Dieu en adorant et en enseignant le monde à adorer l'idole qui a été mise en place par Babylone la Grande. Tout comme les autres, cette Église imite Babylone la Grande. Elle est donc, tout comme les autres, une fille de Babylone la Grande. Et que fera donc celui qui est un Dieu jaloux? Il fera simplement ce qu'il a promis de faire si l'on persiste à exciter sa jalousie. Rendons-nous en Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le cinquième livre. Deutéronome. Et lorsque vous êtes en Deutéronome, rendez-vous à la fin de ce livre, et plus précisément, au verset 32. Deutéronome, j'ai dit verset, excusez-moi, chapitre 32. Deutéronome, chapitre 32, verset, du verset 16 jusqu'au verset 21. OK? Deutéronome, chapitre 32, et lisons du verset 16 jusqu'au verset 21. Deutéronome, chapitre 32, du verset 16 jusqu'au verset 21. Et là, il nous est dit, « Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont point Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point. Dieu nouveau venu depuis peu et que vos pères n'ont point redouté. Tu as abandonné le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le Dieu qui t'a formé. L'Éternel l'a vu et il l'a rejeté dans son indignation. ses fils et ses filles. Et il a dit, « Je cacherai de ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une race perverse, des enfants en qui l'on ne peut se fier. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vanité. Moi aussi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. » Voyez-vous? Voilà ce que Dieu fait, mes amis. Lorsque le peuple qu'il appelle pour annoncer au monde la connaissance de sa personne, eh bien, lorsque ce peuple se met à adorer une idole et excite ainsi la jalousie de Dieu et persiste à le faire, mes amis, qu'est-ce que Dieu fait? Mais Dieu aussi va exciter leur jalousie en les rejetant et en prenant un autre peuple pour les mettre à leur place, pour faire le travail qu'ils refusent de faire. Et ce, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce qu'ils adorent une idole, mes amis. Si ces paroles vous déplaisent, parce que vous vous rendez compte qu'elles remettent en question la créance de votre Église, permettez-moi alors de vous dire que vous avez pour idole votre Église. Mais, voyez-vous, je ne pense pas que le problème vienne de Dieu. En fait, je ne pense pas que la jalousie de Dieu soit une mauvaise chose. Parce que bien souvent, lorsqu'on parle de jalousie, on a à l'esprit un comportement d'homme. On a l'esprit, et puis avec tout ce qui s'y rattache de mauvais, hein? Mes amis, là, si vous considérez cela, je pense qu'on pourrait dire que vous pourrez avoir raison si vous considérez que c'est mauvais. Mais permettez-moi de vous dire que la jalousie en elle-même, fondamentalement, la jalousie n'est pas une mauvaise chose. L'homme pervertit la jalousie, mais la jalousie n'est pas une mauvaise chose et certainement pas la jalousie de Dieu, mes amis. En effet, lorsque l'on considère l'époux qui, dans le premier commandement de son père, dit à son épouse qu'il est constamment présent devant elle, ce qui est la promesse, mes amis, qu'il prendra toujours soin d'elle. Il devient alors évident que la jalousie de cet homme, de cet époux, n'est vraiment pas une mauvaise chose. De plus, notez que Dieu est jaloux et non envieux. Ah! Mes amis, notez cela. Le texte dit, Dieu dit qu'il est jaloux, il est le jaloux. Il n'y a pas dit qu'il est l'envieux, hein? Non, 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 il est jaloux. L'envie est le vif désir d'être en relation avec ce qui ne nous appartient pas. Tandis que la jalousie est le vif désir de préserver, de protéger la relation dont nous avons l'exclusivité. Voilà la différence, mes amis. Nous sommes à Dieu par droit de création, mais aussi par droit de rédemption. Et voyez-vous, si Dieu n'accordait que peu d'importance à ce qui menace l'intégrité de la relation qu'il entretient avec son peuple, il serait alors responsable de la dégradation de cette relation. Et nous aurions raison de l'accuser à ce moment-là. Nous aurions raison de l'accuser à ce moment-là. Mais quand il dit au peuple avec qui il est entré en alliance qu'il est jaloux de la relation qu'il entretient avec eux, il lui fait alors la promesse de s'engager à maintenir cette relation et à prendre au sérieux tout ce qui menace son intégrité. Et, mes amis, la menace à laquelle Dieu se réfère implicitement en disant qu'il est jaloux dans ce commandement, elle ne vient pas de Satan, bien que ce dernier soit l'ultime ennemi de nos âmes. Mais cette menace, mes amis, elle provient de notre cœur même. Elle provient du cœur même de ceux avec qui, eh bien, Dieu est entré en alliance. Elle provient du cœur même de ceux avec qui Dieu est entré en alliance et entretient une relation. Car c'est en eux que se trouve le danger. Et oui, le danger de se détourner pour servir des idoles, mes amis. C'est ce que Satan veut nous voir faire. Mais c'est nous qui sommes en danger d'adorer des idoles. Et le danger vient de nous, mes amis. Alors, de grâce, dites non à l'œcuménisme sous toutes ses formes. Votre pasteur emmène des personnes dans votre église qui peut-être ne croient pas, qui peut-être ont une bonne compréhension de Dieu le Père et de Jésus-Christ, Fils unique engendré. Mais il emmène des personnes qui vont vous enseigner les fêtes juives. Ou il emmène des personnes qui en fait ne sont pas d'accord avec l'ensemble de l'enseignement que Dieu a donné à l'Église du reste, mes amis. Alors dites non à cela. Dites non à l'œcuménisme. Parce que votre pasteur, à ce moment-là, est un ministre, non pas de Christ, mais un ministre qui excite la jalousie de Dieu, mes amis. Alors dites non à l'œcuménisme sous toutes ses formes. Et bien évidemment, abandonnez le culte des idoles, que ce soit des saints que l'Église catholique propose, et même des fausses doctrines, car nous l'avons vu durant l'étude précédente, et encore cette fois-ci, avec l'apôtre Paul, que les fausses doctrines sont des idoles qui excitent la jalousie de Jésus, mes amis. Et nous devons nous préserver purs. Nous devons acquérir cette virginité spirituelle comme les 144 000, n'avoir aucune fraude dans notre bouche. Être pur et sans tache, mes amis. Ne pas souiller avec les femmes spirituelles, les églises, mes amis. Et comment les églises souillent? Par leurs enseignements. De grâce, mes amis. Ne soyons pas timides. Disons non à l'œcuménisme et abandonnons le culte des idoles pour celui du Dieu vivant qui a donné son Fils unique engendré pour vous, mes amis. La Trinité n'a pas de Fils à vous donner, mes amis, car dans la Trinité, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. La Trinité n'a pas d'amour pour vous. Elle ne vous sauvera pas, mes amis. Non. C'est le Dieu vivant qui a donné son Fils unique engendré pour vous. De grâce, mes amis, abandonnons tout cela. Mes amis, je vous invite à considérer l'amour que Dieu vous porte. Considérez sa jalousie comme étant le gage de son amour, ainsi que la promesse qu'il prendra soin de vous. C'est cela que nous devons avoir à l'esprit, mes amis, et pas autre chose. La jalousie de notre céleste époux et la promesse qu'il prendra soin de nous. Il nous demande de nous maintenir séparés, à l'écart. Laissez les gens parler, laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire sur nous, sur vous. Ah, vous ne vous mélangez pas. Ah, mais c'est quoi ça? C'est pas grave. pas grave, mes amis. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que les gens peuvent dire, mes amis? Est-ce que vous trouveriez bien que une femme qui est mariée à un seul homme, eh bien, que un autre homme vienne lui dire, ou même d'autres femmes viennent lui dire, ah oui, mais tu ne couches qu'avec ton mari. Nous avons un mari, mais nous couchons avec d'autres maris. Nous avons des amants. Toi, t'es avec lui seulement, là, tu te prives, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Est-ce que vous trouveriez que cette femme serait une bonne femme si elle suivait les autres femmes qui se plaignaient d'elle en disant « Oui, mais tu ne couches qu'avec ton mari. » Ce que je souhaiterais de vous dire, ça peut peut-être choquer certains, mais c'est cela en fait, mes amis. Dieu se sert de la relation du mariage pour nous dire ce qu'il attend de nous, mes amis. Je suis désolé. Toutes nos sœurs qui sont fidèles à leur mari, elles font bien. De la même manière que l'Église qui se sépare pour n'appartenir qu'à son céleste époux, elle fait le bien, mes amis. C'est elle qui est dans la vérité, mes amis. Et cette épouse-là, mes amis, cette épouse spirituelle de Jésus, ne doit pas se préoccuper de ce que les autres prostituées, hein, de toutes les accusations qu'elles peuvent porter sur elle, en se plaignant d'elle, en lui disant « Oui, mais tu n'es qu'avec ton mari, tu ne te mélanges pas, tu fais dans tes actus. » C'est une secte. T'es une secte, en fait. Regarde-nous. Nous, on va à droite, à gauche. Regarde. Mais toi, là, t'es avec ton mari. Oui, mais et alors? Quand le jugement va tomber, mes amis, il va tomber sur toutes les prostituées, mes amis, sauf sur l'Église qui sera pure. Amen. Alors, de grâce, mes amis, voyons la jalousie de notre céleste époux comme étant le gage qu'il nous aime. Le gage qu'il nous aime. C'est un privilège, mes amis. Il n'y a pas de privation là-dedans. Vous avez le privilège. Quel privilège ont les prostituées avec les différents hommes qu'elles ont? Aucun. Elles n'offrent aucun privilège aux différents hommes. Mais lorsque vous avez une femme qui est avec un homme, mes amis, c'est un privilège, mes amis. Car c'est une relation, mes amis. Il n'y a pas un tierce dans un troisième dedans. C'est une relation, mes amis. Alors, de grâce, disons non à l'œcuménisme. Abandonnons le culte des idoles. Et mettons les critiques sous notre pied. Et disons aux gens, annonçons-leur à ceux qui nous critiquent. Annonçons-leur quelle est la volonté de notre céleste époux, afin que eux aussi puissent se rendre compte qu'ils sont dans une atmosphère de prostitution spirituelle et qu'ils puissent avoir envie de quitter cela et d'entrer dans une relation exclusive avec le Dieu du ciel, avec qui nous entrons en alliance par son Fils, notre céleste époux. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.